0096 2251 2110.
Ce serait quoi la meilleure nouvelle de la radio des bonnes nouvelles, Gerty Dambouri?
C'est que Marguerite Fauché a enfin un salaire équivalent à celui d'un autre homme, d'un homme. Voilà, c'est le moment de la radio où il y a le plus de joie, et c'est une vraie question.
Et Marina Montmirel, pour vous, c'est quoi la meilleure nouvelle de la radio des bonnes nouvelles?
De voir passer ces violeurs repentants, voilà, partout dans le monde, que voilà, des armées de femmes qui, comment dire, ont réussi à braver l'injustice et les inégalités provoquées par le monde des hommes.
Et à quel pouvoir la radio, pour vous?
La radio en général, apaisante. C'est apaisant. J'aime beaucoup les voix à la radio. J'aime beaucoup les histoires à la radio. Je trouve qu'il y en a de moins en moins. Ça parle beaucoup. Il y a beaucoup d'échanges entre des gens et assez peu de temps pour des histoires comme ça. Parce que dans mon enfance, j'écoutais la radio et en particulier les maîtres du mystère. Et je trouvais ça génial. Ça me faisait peur. Et j'adore la peur. Donc il y a quelque chose d'un peu d'un frémissement comme ça. Et que ça soit transporté par la radio, je trouvais ça extraordinaire.
Et votre radio personnelle à vous, Mélissa Lavo, elle porterait quel message?
Elle porterait le message... Ah, c'est une bonne question. Je pense que elle me rappellerait, ce serait une radio qui me recentrait en fait. Et du coup, des messages de, je sais pas, de mantra personnel, de garder les pieds sur terre et de bien sentir la terre, de bien sentir sa respiration, un peu comme une méditation en fait, une voix un peu, une voix interne un peu omniprésente, je sais pas.
La radio Sewell, ça ressemble un peu à ça?
La radio Sewell, je pense que c'est une célébration en fait, et c'est aussi la manière de pouvoir de survivre un événement traumatisant de manière collective et de manière solidaire, et en passant par la joie et par la musique et par la culture.
I fell in love with Africa at that time because I don't have a chance to meet the President of the United States because I'm black. I've never met any of the Presidents of the United States. So I was very impressed with meeting a black man who was the head of state, and my love affair with it began at that time.
Il est 23h et il faut précéder les bonnes nouvelles, les annoncer même si elles n'existent pas encore. Ou alors rappeler celles qu'on a oubliées. Gerty Dambouri met en scène la radio des bonnes nouvelles pour faire revivre des femmes dont l'existence en soi aura modifié le cours des choses. Des femmes qui ont fait avancer leur société en ne faisant confiance qu'à leurs pensées. Sur scène, trois comédiennes jouent les voix de Louise Michel, Théroigne de Méricourt ou Gerty Archimède. Une voix dit « Je propose une radio, installons la radio ». Gerty Dambouri ne veut pas d'une histoire triste, elle veut une histoire différente. Elle veut des voix qui occupent l'espace pour ne pas se le faire confisquer. Elle écrit alors une bonne nouvelle ardente, une bonne nouvelle brûlante. Voilà ce qui va arriver dans les micros de sa radio. De 1789 à aujourd'hui, tout est résumé dans cette phrase d'Angela Davis « Le seul événement extraordinaire de mon existence ne me concerne pas en tant qu'individu ». Ce sont des femmes qui ont pensé plus loin qu'elles, qui ont pensé à des temps qu'elles ne connaîtraient pas, qui ont pensé à nous. Gerty Dambouri leur offre un moment en retour. L'album de Mélissa Lavo, lui, s'appelle Radio Sewell. C'est aussi un album de bonnes nouvelles qu'on n'avait plus en tête. La chanson comme façon de militer. Elle chante en créole, elle retrouve Haïti, elle rejoue des voix résistantes. On n'attend jamais les bonnes nouvelles. On les précède, on les annonce, on propose une radio, on installe une radio. Voilà la nôtre qui donne le pouvoir à des voix qui ont choisi, pour elles et pour nous, le courage. Il y aura Gerty Dambouri, née à Pointe-à-Pitre en 1957. Elle met en scène la radio des bonnes nouvelles, c'est au Tarmac, à Paris, les 22 et 23 janvier prochains, et le livre est disponible aux éditions du Manguier. Il y aura la comédienne Marina Montmirel, qui est une des trois voix du spectacle. Et à la musique en studio, il y aura Mélissa Lavo, elle est en tournée avec son album, elle sera le 24 janvier à Châteauroux, le 1er février à Saint-Jean-de-Védas et le 2 février à Rumilly. Toutes les dates sont sur notre site internet, c'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par la voix d'Elisabeth Roudinesco.
Erwan est folle, mais était-elle folle avant la Révolution ?
Dans sa théorie des passions, Esquirol pense que Erwan était donc folle avant la Révolution et que la Révolution a augmenté sa folie. Moi, j'ai fait l'hypothèse inverse, que c'est au moment où la Révolution s'achève que Terwagne va vraiment sombrer dans la folie. C'est-à-dire l'idée que c'est la chute de l'idéal révolutionnaire qui l'a fait délirer. Alors que pour Esquirol, la Révolution étant un désordre social, augmente le désordre mental.
Mais on peut imaginer aujourd'hui, à travers ce que l'on sait de la vie de Terwagne, que c'est un personnage, je dirais pas faible, mais en tout cas fragile au départ.
Tout à fait, c'est une mélancolique et c'est quelqu'un de très fragile qui a des moments d'exaltation et des moments de grande tristesse.
Gerty Dambouri, la radio des bonnes nouvelles, elle va redonner vie à plusieurs voix, plusieurs figures. Et ça commence par Terwagne de Méricourt. Pourquoi c'est elle qui ouvre le bal ?
Pour deux raisons. La première, c'est que on est un peu dans une chronologie. Donc mes personnages vont de 1789 à Angela Davis, qui est encore vivante aujourd'hui. Et Terwagne de Méricourt est un personnage en soi qui m'a fasciné. Terwagne de Méricourt me paraît un personnage qui a occupé véritablement un espace à un moment donné de l'histoire de la Révolution française et qui a été occulté de diverses manières. La première, c'est le fait qu'elle était enfermée et qu'elle soit morte dans les geôles immondes de la Salpêtrière, comme c'est écrit. C'est justement le travail d'Elisabeth Roudinesco qui la remet en valeur, un très beau livre d'ailleurs.
Et pourquoi on l'appelait la révolutionnaire mélancolique ?
Ben parce qu'elle était, d'abord elle était mélancolique, effectivement. La mélancolie était considérée comme une maladie de cette période. D'ailleurs, on pensait que c'était une maladie qui venait d'Angleterre à cause du climat, humide de l'Angleterre.
Et ensuite, c'était un peu considéré comme un mal féminin aussi.
C'est aussi considéré comme un mal féminin, en effet. Et donc, elle était, qu'est-ce qu'elle avait exactement ? On pourrait peut-être le dire aujourd'hui. Peut-être qu'elle était, on dirait aujourd'hui qu'elle était bipolaire parce qu'elle avait de ses exaltations suivies de moments d'extrême tristesse. Donc on pourrait peut-être aujourd'hui dire qu'elle était bipolaire. Elle était mélancolique, certainement. Mais je partagerai assez la vie d'Elisabeth Roudinesco que, en fait, cette révolution française, c'est sa révolution. Elle l'a toujours dit, ma révolution. Elle l'a toujours appelée comme ça. Et la chute de la révolution française coïncide avec sa folie définitive, quoi, d'une certaine façon.
Et elle s'habille en Amazone. Elle rêvait de former une armée de femmes.
C'est ça qui est extrêmement théâtral, justement. On la voit. Quand on entend parler d'elle ou quand on lit ce qui est écrit sur elle, il y a quelques gravures, quand même. Et on voit tout de suite, c'est un personnage théâtral. C'est un personnage qui théâtralise aussi sa vie, qui fantasme, qui raconte des choses. On ne sait jamais exactement où est la vérité ou pas. Et qui se transforme de manière à ne pas être une femme. Elle n'arrête pas, elle ne le dit pas sans arrêt, je ne voudrais pas être une femme, mais elle cherche un espace, un lieu, un endroit à la fois physique et psychologique où elle ne serait pas réduite à la condition de femme telle que les femmes étaient considérées à cette période.
Et ce dispositif de radio des bonnes nouvelles permet aux comédiennes, donc Marina Montmirel est avec nous en studio, de discuter entre elles justement avant de devenir ces voix-là. Et sur Terouane de Méricourt se pose la question, mais alors est-ce que j'incarne quelqu'un qui a l'esprit sain, ou est-ce que j'incarne quelqu'un qui délire un peu, puisqu'il y avait cette accusation de folie assez tôt. Comment ça s'est... Est-ce que vous êtes posé beaucoup de questions vous-même en créant ce spectacle entre vous sur comment on les fait revivre, ces voix-là, ces femmes-là?
Oui, on s'est posé ces questions-là parce que la pièce, pour moi aussi, parle beaucoup de la question de la transmission. Et effectivement, Terouane... au travers de, enfin, en faisant des recherches, voilà, on trouve des choses sur elle, mais finalement, ça reste mon image à moi, mon fantasme à moi, et se pose la question, effectivement, de comment l'interpréter, et comment, quelque part, rendre au plus près, mais en même temps aussi prendre la liberté de s'approprier ses mots, de s'approprier ses luttes, s'approprier ses pensées. Et oui, on s'est beaucoup prise la tête aussi sur ça.
Enfin, le dedans dehors. On doit être à la cinquième version de la pièce entre nous, avec plus de personnages,
beaucoup
plus de comédiennes, et puis finalement, on est descendu à 3 comédiennes. Au départ, on était 7.
Oui.
Donc, il y a toujours eu l'idée de la radio, parce qu'au départ, c'était une lecture. Le texte que j'avais écrit se faisait en lecture, et donc je m'étais dit, ah tiens, j'aime beaucoup cette idée de radio où on reçoit quelqu'un, on l'interroge, et cette façon d'interroger permet d'aborder des sujets très différents les uns des autres. Donc en fait, les comédiennes sont des personnages différents à chaque fois parce qu'elles sont aussi des journalistes. Donc elles jouent le rôle de journalistes qui vont interviewer des personnages qu'elles vont être obligées de mettre sur le plateau à un moment donné. Et c'est cet aller-retour entre le journaliste, la journaliste et le personnage qu'elles vont interpréter, qui les amène à chaque fois à se demander comment l'interpréter, et à, d'une certaine façon, à montrer, à choisir de montrer au spectateur la transformation en cours à chaque fois.
Et pourquoi, Gertie Dambouré, vous teniez à ce que ce ne soit pas une histoire triste et sombre? Je crois que vous disiez, on pleure souvent à mes pièces.
Oui, et alors là... oui, mon administrateur a une blague qu'il fait depuis plus de 10 ans maintenant, qui est qu'on devrait chercher un partenariat ou un sponsoring de Kleenex parce que tout le monde pleure. C'est peut-être la seule... personne ne pleure là-dedans.
Un peu. Non, il y a des moments où... Oui.
Mais En fait, c'est pas parce que je voulais pas que la que je voulais pas que les gens pleurent. C'est parce que au départ, j'ai placé la pièce dans un cimetière. La pièce débute dans un cimetière, et c'est de la tombe que vont émerger les gens. Mais dans mon pays, les cimetières ne sont pas tristes. La fête de la Toussaint, par exemple, est une fête au cours de laquelle, je précise que je viens de la Guadeloupe, au cours de laquelle on va sur les tombes, on en profite pour se saluer, les enfants courent dans tous les sens, on allume des bougies, nous les enfants jouons à nous envoyer des boules de neige qui sont des boules de bougies, en fait, comme ça, et puis ça rit, et puis on parle aux morts, on leur dit t'as vu, je suis venu te voir, etc., etc. Donc, je ne voulais pas que le fait que ça commence dans un cimetière, ça soit un truc triste. Parce que, par exemple, quand on parle de Louise Michel, bon, tout le monde, pas beaucoup de gens ont certainement vu le film sur Louise Michel, je me rappelle plus le nom de la comédienne, mais je la vois très bien dans mon esprit, où elle est très mince, très habillée de noir, c'est très sombre, alors que Louise Michel était extrêmement facétieuse. C'était une femme qui aimait faire des blagues, courir derrière les bourgeois, leur faire peur, marcher, faire des bruits derrière eux pour leur faire peur, etc. Elle a passé sa vie à être extrêmement facétieuse et à aimer rire. Et c'est donc le personnage de Louise Michel qui dit « Je ne voudrais pas que ça soit triste, j'aimais tellement rire. » Mais on ne sait pas encore que c'est Louise Michel.
J'ai planté mon micro dans sa mansarde, rue de Turenne. Écoutez-le.
J'étais cimentier décorateur et je suis devenu un constructeur en bateau armé. En 1896, j'ai commencé à peindre.
Vous étiez déjà le filleul de Louise Michel?
Pas encore. C'est en 1904 que j'ai connu Louise Michel quand il était de retour de Nouméa, à Marseille.
Comment était-elle, Louise Michel?
Grande femme, très, très sympathique, puis après très triste dans son genre, et puis après quand elle parlait, elle pleurait tout le temps. Et quand elle faisait ses conférences, elle mettait toujours les femmes en avant, et les hommes en arrière. Et ils parlaient aux femmes seulement, en disant que les femmes, c'était eux qui tenaient les enfants et qui devaient donner la bonne éducation. Voilà.
Et quelle sorte de public avait-elle, Louise Michel?
Principalement rien que des ouvriers ou des ouvrières.
Qui sortaient de l'usine pour l'écouter?
Sortaient de l'usine pour l'écouter.
Gertie Dambouri, vous précisiez que c'était un an avant la mort de Louise Michel. Peut-être que c'était pour ça qu'elle pleurait plus qu'avant, comme son filleul.
Oui, elle a eu une vie difficile. Mais il dit qu'il l'a connue à son retour de Nouméa. Mmh. Cette partie de sa vie aussi est tout à fait passionnante, parce que elle a été l'une des rares femmes qu'on considérait à l'époque comme anarchiste, l'une des rares communardes ayant été envoyée en Nouvelle-Calédonie à avoir soutenu les révoltes des Kanaks contre les colons. Et c'est extrêmement fort, parce que on voit que la question du combat qu'on peut mener dans son pays et le combat qu'on peut mener dans un autre pays est très importante à analyser, parce que ses camarades, eux, ont pris fait et cause pour l'administration française contre les Kanaks. Et elle jusqu'au bout, elle aura été aux côtés du plus faible. Et c'est extraordinaire.
Mélissa Lavaux, en parlant de voix résistante, militante, de femmes, vous, ça fait longtemps que vous dites que la chanson, c'est une façon aussi de militer pour vous. Et dans un spectacle que vous avez mis en scène, c'était aussi des figures parfois oubliées que vous aviez envie de ramener sur le devant de la scène, dans l'esprit
oui,
des gens.
Oui, j'avais envie de ramener certaines autrices de la Harlem Renaissance, dont Zora Neale Hurston, qui commence à reconnaître un renouveau. Récemment, on a retraduit, une super belle traduction d'ailleurs, aux éditions Zulma, Their Eyes Are Watching God, leurs yeux n'arrêtent Dieu. Et je voulais aussi parler de Edmonia Lewis, qui était une femme sculptrice à l'époque de l'esclavage, qui était haïtienne et Ojibwe, donc Première Nation Ojibwe d'Amérique du Nord, et qui se retrouve à l'époque où au sud des États-Unis il y a encore des esclaves, une grande sculptrice à Rome, et qui part un peu dans l'oubli. Elle meurt, elle est enterrée dans une tombe non marquée à Londres. Même chose pour Zora Neale Hurston, une tombe non marquée. Je pense aussi dans la pièce, il y a aussi référence à Angelina Wald Grimke, une poétesse queer de l'époque de la Harlem Renaissance. Il y a plein de femmes noires dans la culture qui ont été un peu effacées, surtout qui ont fait des choses qui sont complètement, qu'on n'attendait pas d'elles à l'époque, et qui ont complètement été effacées de l'histoire. Et pour moi, c'est important de les faire parler. Donc, le projet de Gerty me parle beaucoup.
Gerty Dambouri, je pense au moment où vous êtes arrivée, je crois à 17 ans, à Paris, vous étiez à l'université Paris 8 à Vincennes.
Oui.
Et vous faites partie, dans les années 70, de premiers collectifs de femmes, de réflexions. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Est-ce que cette radio des bonnes nouvelles, elle aurait été la même à ce moment-là? Quelle femme y aurait eu? Quelle voix y aurait eu à ce moment-là par rapport à celle que vous avez choisie aujourd'hui?
Ben dans les voies que j'ai choisies, je regrette certaines voies. J'ai pas pu mettre tout le monde, mais il y a bon d'abord j'ai certainement un travail à faire sur une femme que j'ai connue qui s'appelait Maria Moine Kalaloubé, qui était une femme camerounaise, journaliste aussi. Et qui a été emprisonnée dans les geôles du président Ahidjo. À l'époque, il y a eu une mobilisation pour la faire libérer. Et elle est venue vivre à Paris, et elle a créé la Coordination des Femmes Noires, à laquelle je participais. Elles ont créé la coordination en 78, et moi j'y suis arrivée en 79. Et Maria a disparu. Maria a disparu complètement. Donc elle est enterrée, elle est morte, elle est enterrée au Père Lachaise. Je vais la voir de temps en temps, pas assez souvent à mon goût, mais j'ai promis à sa mère d'organiser quelque chose autour d'elle, et j'aurais pas pu la mettre dans la radio des bonnes nouvelles parce que je n'ai pas encore assez de distance avec ma propre peine. Je pense que c'est pour ça qu'elle n'est pas dans la radio des bonnes nouvelles. Mais à l'époque, il y aurait déjà eu Angela Davis. Ça c'est certain, parce qu'Angela Davis fait partie de ma vie depuis l'âge de 10 ans. Et certainement Gerty Archimède avec un autre regard sur Gerty Archimède. J'ai mûri vis-à-vis de Gerty Archimède. J'étais pas tout à fait d'accord avec ses positions politiques, et là ça me permet avec le temps de considérer ce qu'elle a représenté en dehors des positions que je n'aurais peut-être pas partagées. Voilà.
Gerty est la femme qui, après la mulâtresse solitude, a permis aux Guadeloupéennes d'être des combattantes. En 1946, elle est membre de l'Union des femmes françaises.
Sa première action, c'était de créer cette Union des femmes pour permettre aux femmes de prendre conscience en elles-mêmes et de lutter pour les droits de la famille, pour les droits de l'enfant. Et elle n'a jamais cessé de nous dire qu'il fallait aussi lutter pour la paix, car rien ne peut se construire dans un monde de guerre et de troubles.
À la fin des années 1950, bien des petites filles vont être prénommées d'après une célèbre avocate dont il leur appartiendra de retracer le parcours, Gerty Archimède. Un tel prénom donné à un enfant ne pouvait qu'être une référence à Gerty Archimède, seule femme à le porter à cette époque et personnalité adulée des classes laborieuses. Étrange prénom que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans l'histoire de la Guadeloupe. Quelle est sa provenance ? Choisie par la grand-mère de Gertie Archimède, Armantine Nerval, il vient très certainement de la lecture par cette dernière du roman de l'américaine Mariana Susanna Cummings, The Lamplighter, qui en 1854 a été traduit en français sous le titre L'allumeur de réverbère. Ce roman connut un très grand succès auprès des classes populaires, même s'il fut très sévèrement critiqué et méprisé par les lettrés qui y voyaient un roman à l'eau de rose. Cultivez votre cœur est le leitmotiv de cette jeune femme qui, au tournant du XXe siècle, s'affirme contre tous les obstacles dressés sur son chemin.
Gertie Dambouré, est-ce que vous faites partie de ces petites filles nées à la fin des années 50 qui doivent leur prénom à Gertie Archimède ?
Exactement. Je suis née en 1957 et donc, je m'appelle Gertie grâce à Gertie Archimède. Je dis grâce parce que c'est un prénom qui demeure rare et qui attire l'attention, donc c'est pas mal d'attirer l'attention. Et mes parents étaient vraiment fous d'elle. Je veux dire, c'était vraiment l'avocate des classes laborieuses. C'était elle plaidait gratuitement pour les plus humbles. Et elle était aussi députée communiste, la première femme guadeloupéenne élue. À la première assemblée où les femmes ont eu le droit de voter.
Donc vos parents étaient féministes ?
Mes parents n'étaient ni féministes ni communistes. Je soupçonne ma mère d'avoir été un peu communiste, d'avoir voté sans que mon père ne le sache. Parce que mon père, lui, il était profondément gaulliste. C'était la sortie de la guerre, vive de Gaulle. On avait tous les bouquins de Gaulle à la maison. Mais en même temps, je pense que c'était surtout... en dehors de toute idéologie, soit communiste, soit féministe, ce qui les marquait, c'était le fait qu'elles soient à leur côté dans les moments difficiles.
Et dans le livre Gertie Dambouré de la Radio des Bonnes Nouvelles, donc il y a le texte de la pièce qu'on peut voir sur scène, et puis ensuite il y a des notices biographiques de ces femmes qui sont très intéressantes. Vous avez lu le début de celle de Gertie Archimède, et c'est là où on apprend aussi que elle était en conflit avec son père. C'était pas facile de lui faire accepter qu'elle avait envie de faire des études, qu'elle avait envie de continuer à lire. Et je crois qu'elle avait transformé la mercerie de sa mère, qui elle-même s'était battue pour pouvoir ouvrir un commerce, en salon littéraire.
Oui.
Donc c'était une adolescente et une jeune femme rebelle.
Tout à fait. Je sais pas si elle était rebelle, parce que elle avait aussi une façon de gérer sa rébellion de manière à arriver à ses fins. C'est-à-dire qu'elle aurait pu se rebeller complètement contre son père au moment où il lui interdit de continuer ses études, mais elle a réussi à prétendre à obéir jusqu'au moment où avec l'aide de sa grand-mère d'ailleurs, Armantine Nerval, elle arrive à influencer son père par un autre biais, c'est-à-dire à faire intervenir un député, qui est un député français, enfin, qui est le député de la Guadeloupe, mais à l'époque, il y avait encore des gens qui étaient originaires de d'autres régions de France et qui étaient députés pour la Guadeloupe. Et elle arrive à lui souffler que Gertie voudrait bien poursuivre ses études pour devenir avocate. Et son père lui dit, vous voulez être avocate ? Alors moi, je lui fais dire, oui, la première femme noire avocate. Bon, évidemment, elle ne l'a certainement pas dit comme ça, mais c'est tout ça. C'est aussi la femme des premières fois. La première femme avocate, la première femme députée, et qui a toujours tenu la ligne de ses engagements. elle n'était pas communiste au début. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que en réalité, oui, quand vous parlez de rébellion, c'est pas faux. En réalité, son père était radical. Était un radical, radical comme la définition ancienne de radical, pas celle d'aujourd'hui. En tout cas, il n'était pas communiste, il n'était pas socialiste, il était radical. Et elle. Voulait évidemment avoir une activité sociale et politique, mais elle n'a jamais pensé à se présenter à la députation. Et c'est parce que l'Église a excommunié les femmes qui se rapprochaient du Parti communiste, et que l'Église, parce que c'était la première femme, la première fois que les femmes avaient le droit de vote et le droit de se présenter aux élections, l'Église voulait la poussait, elle, à se présenter du côté de la droite. Et parce que l'Église avait excommunié des femmes, elle a décidé de rejoindre le Front Uni dans lequel il y avait le Parti communiste. Et ensuite, elle est devenue communiste. Donc, c'est déjà un acte de solidarité avec d'autres femmes et un acte de refus de la mainmise d'un certain nombre d'institutions sur la vie des femmes.
Mélissa Lavaux a écrit Radio Sewell, un album enregistré en quelques jours, une urgence de chanter, des hommages au passé qui sont de bonnes nouvelles pour l'avenir. Et le premier morceau en studio s'appelle...
Trois feuilles. Je suis Mélissa Lavaux, nous sommes en studio avec Gerty Dambury et Marina Montmirel. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charron sur France Culture. On est ensemble jusqu'à minuit.
Ramasse les songes, j'ai. Marie-Scondé, comment se fait-il donc qu'on ait traversé donc, les mers?
D'abord, ça correspondait aussi à la fin d'une longue trajectoire, d'une longue quête de moi-même qui me ramenait, si on peut dire, à mon point de départ. Donc Tituba, moi je considère que c'est un aboutissement et un commencement tout à fait important. J'ai découvert finalement que je suis une Antillaise. Je sais, ça peut faire rire, mais enfin, moi, ça m'a pris du temps. Et je voulais désormais écrire en Antillaise. Mais être Antillaise, ça ne veut pas dire s'enfermer dans l'île et parler d'histoire uniquement, comme dit un ami écrivain, histoire de Boudet, etc. Il a des plaisanteries à ce sujet. Donc, je voulais être Antillaise, c'est-à-dire porter un regard sur le monde de la diaspora d'une façon qui soit spécifique. Donc, c'est certain que Tituba, c'est un changement, c'est un retour.
C'est la voix de Marie-Scondé, Mélissa Lavaux, que vous citez souvent dans vos lectures inspirantes. Est-ce que, puisqu'elle parle du retour, vous, à partir de quand et à travers quoi vous vous êtes sentie haïtienne, puisque vous avez grandi au Canada ?
Je pense que je ne suis jamais pas sentie haïtienne. La seule fois où je ne me suis sentie pas haïtienne, vraiment, c'était quand j'ai proposé de faire le projet Radio Sewell et une amie au Cap Haïtien était genre, t'es pas assez haïtienne pour faire ce projet. Abandonne tout de suite. Elle s'est retirée plus tard, mais je pense que mes parents m'ont toujours inculqué l'importance de connaître ses origines. Mon père avait un très ancien livre qui s'appelait Napoléon Noir d'un auteur anonyme à la maison qu'on devait lire à tous les étés. je pense que je me suis sentie un peu plus haïtienne quand après le tremblement de terre, je me suis sentie je n'ai perdu personne. Je me suis sentie un peu plus concernée, un peu plus bienveillante envers la manière dont Haïti et dont on parle d'Haïti dans les médias. Et peut-être que ça m'a rapprochée un peu de l'île et ça m'a rapprochée un peu de la manière dont je me voyais par rapport à l'île en tant qu'adulte, en tant que Canadienne d'origine haïtienne qui habite en France. Alors, mes difficultés sont plutôt au niveau de comment est-ce que je me situe quand je voyage. Et souvent, les gens me demandent « Mais d'où viens-tu ?» Et puis, je pense que le premier truc qui sort, c'est « Je suis d'origine haïtienne. » Et après ça, je suis née au Canada.
Et puisqu'on parle de femmes puissantes, je crois que la figure de votre grand-mère, elle a été importante départ de ce disque et de l'écriture.
Je voulais vraiment interviewer ma grand-mère et lui poser des questions parce que ma grand-mère, c'était une source de connaissances par rapport à l'histoire de la famille. Et je me souviens d'avoir fait cette interview pour retracer un peu notre arbre généalogique. Et je voulais refaire cet exercice, mais avec les chansons parce que j'ai le souvenir de ma grand-mère qui chantait des chansons d'époque. Et elle est décédée, très peu de temps après que je rentre d'Haïti et j'avais pas encore décidé de faire le projet, mais à sa mort, je me suis dit que c'est en fait c'était trop tard et j'avais déjà gaspillé trop de temps. Et je pense que son esprit, genre, j'aime penser que j'arrive à communiquer avec ma grand-mère et que je la sens présente parce que j'ai souvent des rêves. J'ai souvent des rêves d'elle qui m'envoie des petits messages et genre un super rêve où genre quelques jours après sa mort c'est assez compliqué avec sa mort du coup quand elle avait été enterrée. Je n'avais pas été invitée aux obsèques par ma famille, j'étais en conflit et j'ai rêvé qu'en fait un notaire me faisait rentrer dans un cabinet qui devenait énorme tout d'un coup. Il disait oui, voici votre héritage. Et en fait c'était un énorme studio rempli d'instruments, des instruments que je savais même pas jouer, des batteries, des contrebasses, etc. Tout était recouvert de pièces d'or. Et ce rêve-là est revenu quand même plusieurs fois. Et je me suis dit bon, ça veut dire qu'il faut que je continue dans la musique. Je ne suis pas sur le point, pas prête d'abandonner tout de suite.
Et au tout début, c'était l'idée d'aller sur les pas de Martha Jean-Claude ?
Au début, il y a 8 ans, on m'a proposé de faire... Je pense qu'il y avait... Agnès B. voulait faire un hommage à Haïti, juste après le tremblement de terre. Et un commissaire d'exposition voulait m'embaucher pour proposer une soirée. Et je disais, pourquoi pas faire un hommage à Martha Jean-Claude ? Ça fait plus de 20 ans qu'elle est décédée et... n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent. Et du coup, j'ai commencé à travailler dessus.
Qui est une chanteuse haïtienne des années 50.
Des années 50, qui était aussi une dramaturge, qui était une révolutionnaire, qui était une radicale, qui avait un mari journaliste cubain et qui a décidé de partir parce qu'elle se faisait jeter en prison régulièrement. Et pendant sa troisième ou quatrième grossesse, elle était en prison et puis son mari a dit « Allez, on part parce que c'est pas possible. Tu veux pas continuer à te faire arrêter pour critiquer le président qui était fasciste à l'époque. » Et du coup, il se retrouve à Cuba pendant plus de 35 ans et elle chante Haïti depuis Cuba, qui est juste en face, mais c'est quand même triste qu'elle n'arrive pas à rentrer chez elle. Et ça m'a beaucoup inspirée parce que je me retrouve à chanter, à être porte-parole d'Haïti malgré moi, alors que j'arrête pas de dire oui mais je suis d'origine ou je n'aurais pas parlé avant d'autres chanteuses ou chanteurs haïtiens qui eux sont nés et habitent sur l'île et qui ont beaucoup moins d'attention médiatique, mais pourtant on me propose d'être porte-parole. Donc je me suis dit c'est marrant que je me voyais beaucoup dans ce personnage qui avait énormément de dire au niveau de la résistance, énormément de dire au niveau de la culture haïtienne, énormément à dire en tant que féministe aussi. Moi, je la situe comme une féministe. Et du coup, en travaillant sur ce projet, je me suis rendu compte que Martha Jean-Claude reprenait une chanson d'Auguste Nassant de Pradines qui datait de l'occupation militaire américaine d'Haïti. Et qu'en fait, ces chansons, que je pensais qu'elles n'étaient pas très féministes justement, en fait, parlait des soldats américains et qu'elles avaient été écrites de manière en langage codé pour ne pas justement se faire arrêter et pour ne pas se faire jeter en prison. Donc ces chansons, en fait, me suis rendu compte qu'elles étaient encore plus anciennes que Martha Jean-Claude et que c'était intéressant qu'elles choisissent de chanter certaines chansons en particulier. Et c'est une des premières femmes haïtiennes à chanter la culture du vaudou, en fait. Les Haïtiens ont une relation un peu antagonistique avec le vaudou. Selon la classe sociale, j'ai dans ma famille, par exemple, ils sont très pieux, très, très catholiques, et en fait, le vaudou n'a pas sa place dans ma famille. Par contre, le vaudou est très présent en Haïti. C'est même pour ceux qui ne le pratiquent pas, c'est une religion qui elle fait partie de la culture, en fait. Et partie des superstitions des gens. Donc, Martha Jean-Claude et aussi Aimerande de Pradines, qui est décédée il y a un an maintenant, étaient les deux premières à vraiment chanter ce répertoire que, du coup, les bonnes gens de bonne classe sociale disaient n'étaient pas assez purs, assez nobles à chanter en concert ou en récital.
Ai, Chuchuana, leu é vodu. Ganhei belo monjo amada. Ganhei gozo no creu. O tambu santa montanha rabe fam fitu. A lua vim pra chapo. Um barco é o lue de si. Santi João de Tafi arrivé. Três gentil ampia dança. Gade janti lumye flambe, chouchou an alwe vodoua, chouchou an alwe vodoua, chouchou
bamon noir vodoua,
chouchou
bamon noir vodoua,
chouchou
bamon noir vodoua,
chouchou
bamon noir vodoua.
C'est la voix de Martha Jean-Claude, invitation au vaudou. Mélissa Lavaux. Oui.
J'allais dire, c'est tiré du disque Canciones de Haïti qu'elle a enregistré à Cuba. Et si on a une version très spéciale du disque, elle est prise en photo par le photographe de Che. Mais c'est quelqu'un d'autre qui m'a appris ça. J'ai pas cherché sur Google cette information.
Et si le vaudou, c'était pas justement très bien vu dans votre famille, est-ce que la langue créole, ça vous a été transmis?
Non, je pense que mes parents ont vraiment prôné l'intégration sociale au Canada et surtout qu'on on a pas grandi au Québec, on n'a pas grandi à Montréal-Nord avec le reste des Haïtiens. On a grandi à Ottawa, il y avait des Haïtiens, mais pas autant que si on avait grandi à Montréal-Nord. Et ma mère faisait exprès de ne pas nous donner des amis de notre âge qui étaient Haïtiens à part nos cousins. Et même mes cousins, entre nous, on n'avait pas le droit de se parler en créole. Et il fallait toujours répondre en français, à la limite en anglais, parce qu'ils voulaient vraiment qu'on apprenne bien l'anglais. Et c'est juste parce qu'ils n'avaient pas envie qu'on soit ostracisés, qu'on soit marginalisés par nos camarades de classe. Et je me souviens, quand j'avais joué mon premier concert à Paris, ma mère a fait le voyage, elle est venue me voir jouer. J'avais écrit une chanson en créole vraiment, comme dire à ma mère, tout tchac. Ma mère m'a massacré parce que je n'avais pas une bonne grammaire et je n'ai toujours pas une bonne grammaire. Et ma mère, elle a quand même pleuré parce qu'elle m'entendait chanter en créole. Elle m'a pleuré parce que elle se rendait compte qu'il manquait, il y avait des lacunes dans mon éducation. Et pleurer parce que cette déchirure qu'elle a eue avec son pays a fait en sorte qu'il y a eu des séquelles chez nous, alors qu'elle ne voulait pas du tout qu'on en ait par rapport à cette déchirure, à ce départ qui était pas nécessairement voulu lors de la première vague d'immigration d'Haïtiens au Québec.
Et Sewell, ça veut dire quoi?
Sewell, c'est pour référence à la sirouelle, qui est une prune qu'on trouve dans les marécages en Haïti. Et c'est le nom on appelait les groupes de... J'appelle les mariachi haïtiens de l'époque, qui étaient un peu comme des griots aussi, qui se baladaient, déambulaient à chanter ces chansons traditionnelles. Ça s'appelait des bandes à Sewell, mais pour faire référence à cette prune. Mais du coup, moi, je voulais parler de Radio Sewell parce que j'avais envie de... qu'on me pose la question, c'est quoi Sewell, et que je parle des bandes à Sewell.
Voilà, c'est fait, c'est parfait. Et 12 ans, ça a été un âge important, puisque c'est le moment où vous êtes allé en Haïti. Et est-ce que c'est le moment aussi où vous avez reçu une guitare de la part de votre père?
Oui, on rentre d'Haïti et mon père, je ne sais pas s'il court vraiment à aller chercher, mais je pense qu'il se retrouve dans l'équivalent d'un Emmaüs au Canada et il négocie pour avoir une guitare vraiment, vraiment pourrie. J'adore cette guitare, mais elle était vraiment pourrie, à 15$. Et après ça, il dit, allez, on va à la bibliothèque, on va photocopier toutes les méthodes possibles et tu vas te mettre à apprendre la guitare. 7 ans auparavant, il avait essayé de faire apprendre la guitare à ma sœur, qui ça n'avait pas du tout accroché. Et ma sœur était verte quand je commençais. Donc, mes premiers pas à la guitare, c'était un peu pour énerver ma sœur. et un peu pour me rapprocher de mon père qui n'habitait pas avec nous, qui faisait pas vraiment partie de notre quotidien et avec qui j'avais très peu en commun à part les maths et la musique.
Et vous, Gerti Dambouri, 12-13 ans, c'est aussi l'âge des premières émotions théâtrales?
12-13 ans, c'est l'âge à peu près où je quitte la Guadeloupe, en fait. Hein. Les premières émotions théâtrales commencent bien avant. Hein. Je me ridiculise à 5 ou 6 ans pour jouer dans une pièce qu'on a beaucoup répétée à l'école. Et je n'ai pas l'autorisation de jouer la pièce parce que ma mère a oublié de me faire ma petite culotte en soie rouge qui allait avec la jupe. Et je crois que ça m'est resté une frustration. Et donc, on m'a interdit la scène et j'ai décidé de la reprendre. J'ai commencé le théâtre. Enfin, j'ai fait du théâtre jeune parce que en réalité, j'étais la dernière enfant, la dernière d'une famille de 8 enfants. Et on n'avait pas le droit de sortir, nous les filles. On n'avait pas le droit de jouer dans les rues. Et en réalité, mes sœurs passaient les soirées à faire du théâtre. Alors, on jouait des classiques et moi, j'étais toujours la servante. Donc, j'ai été la servante d'Andromaque, la servante de toutes les femmes des tragédies de Racine. Et donc, j'ai toujours fait du théâtre comme ça.
Et après, vous avez arrêté les servantes?
J'ai arrêté les servantes, j'ai arrêté le théâtre aussi, parce qu'en réalité, moi, j'ai étudié l'anglais et l'économie politique et l'arabe à l'université de Vincennes, Paris 8, qui n'existe pas. Paris 8 existe encore, mais Vincennes n'existe plus, qui est toute une épopée politique, culturelle, de l'histoire de l'enseignement en France et qu'on passe sous silence, mais bon. Et j'ai arrêté le théâtre, j'ai repris le théâtre avec la coordination des femmes noires, où on voulait créer une maison pour accueillir les femmes migrantes, les femmes, elles étaient pas migrantes comme ça, c'était des femmes immigrées, c'était dans la période de ce qu'on appelait le regroupement familial, et donc il y avait beaucoup de femmes qui arrivaient d'Afrique et du Maghreb pour rejoindre leur mari, et qui étaient pour une bonne partie d'entre elles illettrées en français. Et donc nous voulions ouvrir une maison des femmes noires à Paris. Et donc on avait organisé deux superbes journées au Bataclan pour récolter des fonds, mais on n'a jamais eu assez de fonds pour ouvrir la maison des femmes noires. Par contre, ça a été le moment où on a écrit une pièce collective, on l'a jouée, et donc je suis retombée dans le théâtre à cause de la coordination des femmes noires.
On va peut-être, Mélissa Lavaux, avant minuit, écouter un nouveau morceau.
Oui.
Et celui-là s'appelle
Eddie Wildfire. Il vient de Et parfois la fleur est un couteau.
Le spectacle que vous aviez fait autour de toutes ces figures et ces femmes parfois oubliées. Thank you. quartier d'Ambouri, en 2009, il y avait eu des grèves contre la vie chère en Guadeloupe et en Martinique. Et vous aviez écrit un long poème qui s'appelait « Qui vive ». Qu'est-ce que ça permettait, le poème, à ce moment-là, dans des situations comme ça? Qu'est-ce que ça vous permettait de dire?
Ce long poème « Qui vive », il m'a permis de parler de cette grève, mais d'en parler de façon sensible et pas de façon politique, ce que j'ai pu faire dans une autre pièce qui s'appelle « Les Atlantiques amers ». Dans la poésie, en réalité, ce que je voulais, c'était de rendre compte de toutes les personnalités, les personnes différentes, les humanités différentes qui s'étaient retrouvées dans cette grève à des endroits très différents les uns des autres. En fait, ce sont des petites vignettes. Et il y a, par exemple, la grand-mère qui ne peut pas aller manifester, mais qui est en retrait chez elle et qui accompagne le mouvement silencieusement, mais qui l'accompagne ou qui l'accompagne en préparant à manger pour ceux qui sont allés manifester et qui entend en fait qui a les échos du désordre social qui arrive dans son appartement. Voilà, c'était des hommes, des femmes. J'ai écrit un texte pour un médecin dont le cabinet était juste en face de la préfecture et qui était totalement opposé au mouvement, mais qui toute la nuit donnait à boire aux gens et leur ouvrait ses toilettes. Entre-temps, malheureusement, il s'est tué dans un accident de moto. Et donc, c'était ça, rendre compte de la façon dont, humainement, on est dans un mouvement. Mais pas politiquement, voilà.
Et la poésie, elle vous accompagne encore, toujours, tous les jours?
Tous les jours, non, parce que je suis paresseuse. je devrais écrire davantage, enfin j'ai envie d'écrire davantage, mais bon, je traîne sur les réseaux sociaux, je joue au spider solitaire, ou des choses comme ça.
C'est pas de la paresse, c'est du self-care.
Mais par contre, j'ai besoin d'en lire. J'en lis un petit peu chaque jour, ou bien je récite de la poésie pour moi quand je suis dans la rue. Au lieu de chanter, je récite de la poésie. Voilà, ça m'accompagne effectivement de cette manière-là.
Là, vous liriez quel poème avant la nuit?
J'ai le choix. Non, je lirai certainement... Je vais me faire massacrer par mes amis, mais je lirai certainement Saint John Perse. C'est-à-dire que j'aime beaucoup Éloge de Saint John Perse et je lirai Ceux qui sont vieux dans le pays, le plus tôt sont levés à pousser le volet et regarder le ciel, la mer qui change de couleur et les îles disant la journée sera belle si l'on en juge par cette aube. Aussitôt c'est le jour et la tôle des toits s'allume dans la transe et la rade est livrée au malaise et le ciel à la verve et le compteur s'élance dans la veille, etc.
On sera parti des bonnes nouvelles, ces femmes qui ont existé pour les faire entendre et leur redonner une place dans ce futur qu'elles ont contribué à penser. Gerty Dambouri met en scène la radio des bonnes nouvelles, ce sont les 22 et 23 janvier au Tarmac à Paris et le livre est aux éditions du Manguier. Mélissa Lavaux est en tournée en France avec son album Radio Siwell. Elle sera le 24 janvier à Châteauroux, le 1er février à Saint-Jean-de-Vedas et le 2 février à Rumilly. Toutes les autres dates sur le site internet. Et son spectacle « Et parfois la fleur est un couteau » sera bientôt à Brest.
En octobre
prochain. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission. Merci à Lionel Quentin pour la réalisation. Et à la technique, merci à Philippe Mercher et Mathieu Leroux. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit. Dans quelques instants, ce sera demain, ce sera dimanche, et c'est l'heure des nuits.